Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer l'hypercholestérolémie familiale homozygote. Et pour évoquer son impact cardiovasculaire, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Sophie Béliard. Professeur Béliard, bonjour.
Bonjour.
Professeur Béliard, vous êtes professeur d'endocrinologie au sein du service d'endocrinologie, diabète et maladies métaboliques de l'hôpital de la Conception à Marseille. Et vous contribuez activement au RéfERCOL, le registre français de l'hypercholestérolémie familiale. Alors, professeur Béliard, quelles sont les complications les plus sévères de l'hypercholestérolémie familiale homozygote?
Oui, alors, je vais juste reprendre pour que tout le monde puisse comprendre. Dans l'hypercholestérolémie homozygote, les taux de cholestérol qui circulent dans le sang sont extrêmement élevés, hein, souvent 5 à 10 fois la norme. Et du coup, les artères baignent dans le cholestérol qui est très inflammatoire, qui va abîmer les parois des artères et qui va pouvoir s'y loger et va finir par boucher les artères. Et donc, le cholestérol peut boucher les artères très tôt dans la vie, au niveau des artères cardiaques, mais aussi du cou, des artères du cerveau, de l'aorte, hein, qui est notre plus gros vaisseau, et des artères des membres inférieurs. Et donc, c'est une maladie extrêmement sévère, parce que si on ne la détecte pas, les patients décéderont avant l'âge de 20 ans, de mort subite qui est très souvent due à un infarctus du myocarde massif. Donc en fait, les complications, je vous l'ai dit, elles sont vasculaires et elles sont surtout cardiaques. Et on voit le plus souvent des infarctus du myocarde ou des angines de poitrine en fait chez des gens très jeunes, de type adolescent ou jeune adulte. Mais il y a aussi une autre complication hein, qui est aussi liée au dépôt de cholestérol, mais là, pas au niveau des parois artérielles, mais sur une valve cardiaque, qui est la valve aortique, qui permet de faire passer le sang en fait, du ventricule gauche à l'aorte. Et dans l'hypercholestérolémie homozygote, les taux très élevés de cholestérol vont finir par se déposer sur la valve aortique et vont finir par la sténoser ou la boucher. Et ça, ce sont des situations très graves dans lesquelles il faut opérer rapidement le patient pour changer sa valve hein, et la remplacer par une prothèse biologique ou une valve mécanique. Donc ça, c'est une complication particulière qu'on voit chez monsieur et madame tout le monde, mais très âgés, chez des gens très âgés. Et là, dans l'hypercholestérolémie homozygote, on voit ces problèmes de valve aortique chez des jeunes gens autour de 30 ans en général.
Et est-ce qu'il existe un consensus pour le dépistage de cette maladie rare ?
Alors non, malheureusement, il n'y a pas de consensus. Donc, on a des recommandations de la Haute Autorité de Santé qui sont assez généralistes et qui proposent pour la population générale de faire un dépistage de l'hypercholestérolémie par un simple dosage du taux de cholestérol, mais attention, chez les adultes à partir de 40 ans. Donc là, on voit qu'on est beaucoup trop tard puisque dans cette forme rare et très sévère, il faut dépister les enfants pour les traiter le plus tôt possible. Donc nous, la communauté scientifique là, qui s'occupe plus spécifiquement de cette maladie rare et l'association des patients, on milite en France pour qu'il y ait un dépistage généralisé, c'est-à-dire qu'on puisse faire un dosage de cholestérol chez tous les enfants, chez leur pédiatre, et qu'on puisse dépister très tôt cette maladie. C'est ce qui est déjà fait dans d'autres pays, par exemple en Slovénie, et qui commence à être fait en Angleterre et en Hollande. Donc on espère qu'en France, on pourra un jour pouvoir dépister tous les enfants pour éviter les drames familiaux.
Et chez les patients qui sont diagnostiqués, quel suivi est-ce qu'on peut leur proposer ?
Alors, pour moi, pour le suivi, il y a trois mots qui sont très importants. Le premier, c'est spécialiste. Donc, c'est une maladie rare et complexe. Donc, il y a vraiment une nécessité que ces patients soient suivis dans des centres spécialisés qui sont tous dans des hôpitaux universitaires. Le deuxième mot pour le suivi, c'est précoce, parce que les patients doivent être diagnostiqués le plus tôt possible, hein, à quelques mois de vie ou les toutes premières années, pour pouvoir être traités dès le diagnostic et très précocement. Et enfin, le troisième mot, c'est multidisciplinaire. La prise en charge, elle est compliquée et donc elle va nécessiter qu'il y ait des spécialistes de différentes disciplines qui s'occupent de ces patients. Donc les endocrinologues adultes et pédiatres, des cardiologues bien sûr, des médecins vasculaires, mais aussi des biologistes et des généticiens. Et puis, pour le suivi de ces patients, on a l'habitude d'avoir des réunions nationales pour décider, par exemple, de la mise en route de nouvelles thérapies ou des prises en charge quand c'est compliqué. Et puis finalement, quand on prend un patient, quel suivi on va lui proposer? Quand on le voit en consultation, on va lui expliquer concrètement qu'on va le voir plusieurs fois dans l'année pour adapter ses traitements, et puis qu'il verra au moins une fois par an un cardiologue pour faire des explorations cardiaques qui peuvent être à type d'échographie tous les ans pour regarder justement la valve aortique, mais aussi de scanner des artères du cœur ou même d'IRM cardiaque.
Et concernant l'exploration coronarienne, qu'est-ce que vous recommandez?
Alors, il n'y a pas vraiment de recommandation. Ce qui est sûr, c'est qu'un électrocardiogramme simple, évidemment, ne suffit pas. Donc, on fait beaucoup de coroscanners, hein, qui sont des scanners des artères coronaires. Après, le rythme va dépendre des patients et de la sévérité des patients. En général, on essaye d'en faire un tous les 2 à 3 ans. Et puis quand c'est plus compliqué, mais ça dépend du centre aussi, parce qu'il faut avoir des spécialistes, on peut proposer des IRM cardiaques. Mais ça nécessite vraiment des spécialistes de radiologie, puisque ce sont des examens assez complexes et il faut bien savoir les analyser. Et dès qu'il y a un doute, bien sûr, on fait une coronarographie.
Alors, vous avez évoqué, professeur Béliard, l'impact sur les enfants de cette maladie rare. Quelles sont justement les spécificités chez l'enfant?
Alors oui, effectivement, on suit les enfants, puisqu'on on dépiste les patients très tôt, quand on a la chance de les dépister très tôt. Et effectivement, il y a plusieurs spécificités. Déjà, il y a des spécificités, je dirais, pour les médicaments, puisqu'il y a certains traitements, dont des nouvelles thérapies, qui ne sont autorisées qu'à partir de 12 ans ou même que chez les adultes. Donc, on arrive à les prescrire tout de même chez des enfants plus jeunes, mais c'est extrêmement compliqué. Il faut faire des demandes spécifiques à l'agence du médicament, etc. Et puis, chez les enfants, le traitement par aphérèse, donc les aphérèses, ce sont comme des sortes de dialyse du cholestérol, hein, qui sont des épurations extracorporelles du cholestérol, qui sont la base du traitement des homozygotes, qui se font toutes les semaines en général. Eh bien, chez les enfants, on ne peut commencer ces traitements qu'à partir de l'âge de 5 ans. Et puis, il y a aussi des spécificités pour les examens cardiovasculaires et les traitements, puisque les enfants ont des artères coronaires, des artères cardiaques qui sont très très fines, toutes petites et qui sont quand même assez difficiles à explorer. Et par exemple, pour les coroscanners, il faut parfois endormir les jeunes patients pour pouvoir faire une analyse très fine de ces artères. Et puis enfin, quand ces artères sont bouchées chez les très jeunes, hein, c'est ce qu'on voit parfois chez des petits de 4-5 ans, eh bien, vous pouvez imaginer qu'aller mettre un ressort dilaté, une petite artère coronaire toute fine, ou mettre un ressort, ou voire même faire un pontage, c'est extrêmement compliqué, beaucoup plus que chez l'adulte qui a des artères de beaucoup plus gros calibre. Donc la prise en charge, vraiment, est plus complexe chez les enfants.
Eh bien, merci mille fois, professeur Béliard, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est l'hypercholestérolémie familiale homozygote. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite !